Bonjour mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Que la paix et l'abondance, grâce de notre Seigneur Jésus soient sur vous. En ce jour encore, j'ai plaisir de partager ce moment. Après ma méditation matinale, tous les jours, j'ai écouté le chapitre de 1 aux Corinthiens. Et j'ai écouté la lecture biblique de tout ce livre où notre prédécesseur, l'apôtre Paul, s'adresse aux Corinthiens particulièrement. J'ai entrepris d'enregistrer ce moment vraiment de méditation parce que j'ai suivi avec attention tout ce livre de chapitre en chapitre et vraiment comme tous les autres fort riche d'enseignements. Et j'ai voulu partager parce que j'arrivais au chapitre 12 ou la 12 et 13, les derniers chapitres, 12, 13, 14, où Paul parle de l'unité du corps, où il parle de la charité aussi, avant que ce soit des chapitres vraiment très, très puissants pour le corps du Christ. Et au chapitre 14, où il instruit l'Église de Corinthe sur les modalités pratiques, sur la motion d'ordre, je vais dire ça comme ça. La motion d'ordre où il enseigne sur les langues, de parler en langue, la nécessité de parler en langue, mais de parler aussi en intelligence, où il instruit sur la tenue dans l'Église, sur l'esprit du prophète qui est soumis au prophète et tout cela. Et il arrive, bien inévitablement, à la partie où il dit à l'Église que la femme doit se taire. Et si elle veut s'enquérir de quelque chose, qu'elle le demande à son époux, son mari, à la maison. Bien évidemment, en tant que femme et envahie par l'appel qui est le mien, le désir de servir, surtout dans un appel qui est le mien, que je reconnais comme être le mien, dans lequel je me sens attirée par nécessité de l'appel de Dieu, comme j'aime me définir, comme étant servante de Christ et dispensatrice des mystères de Dieu, je parle. Et c'est toujours des versets qui m'interpellent dans une méditation profonde où je regarde à Christ et au Père et je pose des questions. Donc, j'ai envie de vous partager un peu ce que ce matin encore j'ai eu comme réponse de l'Esprit en moi-même parce que je pense que ça peut édifier d'autres personnes, surtout les femmes qui sont dans le ministère, parce que c'est une bataille, c'est un combat. Mais, comme l'Esprit de Dieu m'a enseigné, ne t'attarde pas sur cette chose. C'est ton esprit qui concerne l'Éternel. Et Dieu le Père dispose les membres dans son corps comme il veut. Et quand on parle de membres, ce n'est pas que les pieds et les mains, non. C'est chaque entité, chaque cellule du corps est disposée par Dieu comme il veut pour servir à la préparation de son avènement. Donc, habité déjà de cet esprit, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai reçu. Parce que je me suis dit, premièrement, et celles donc qui sont dans l'église et qui n'ont pas de mari, elles n'auront personne à qui demander. Si elles veulent s'enquérir de quelque chose. Elles n'auront donc pas droit à la connaissance de la vérité. Et puisque Paul lui-même explique que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Elles ne seront donc jamais affranchies, puisqu'elles seront dans l'ignorance, ne sachant pas qui demander n'ayant pas de mal. Est-ce donc ce que cela veut dire? Et l'Esprit de Dieu de me faire monter en mon cœur. Et la Samaritaine, elle a fait quoi? Et j'ai dit, ah oui. La Samaritaine, sans doute, c'est parce qu'elle n'avait pas de mari. Puisqu'allant au puits, elle a trouvé là-bas la source même de l'information, la source même de la connaissance, notre Seigneur Jésus. Et je me suis dit, sans doute, oh, puisqu'il lui a dit qu'elle a eu des maris qui ne sont pas ses maris. Et que celui-même qui est avec elle maintenant n'est pas son mari. Donc c'est en qualité de femme sans mari que Jésus s'adresse à elle. Donc quand elle vient à la source, quand elle vient au puits, c'est symbolique, c'est une projection spirituelle. Elle vient à la quête de l'eau, puisque c'est à ce chapitre que notre Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus, lui fait prendre connaissance de tout ce qu'est l'eau vive. Une eau qu'elle boira et qu'elle n'aura plus jamais soif, c'est-à-dire même l'essence même de cette connaissance dont on parlait tout à l'heure. Si une femme veut s'enquérir, elle veut s'enquérir de quoi? De la connaissance de la parole de vie, de la connaissance de la vérité, celle qui donne la vie. Oui. Et c'est en cette qualité-là. Et moi, je dis une chose. Je parle à mes sœurs en particulier aujourd'hui. Mes frères, écoutez pour édifier ceux qui sont encore devant. Mais cette parole ne s'adresse pas à vous particulièrement aujourd'hui. Je parle à mes sœurs. J'ai compris donc, en fait. Ne vous en faites pas. C'est à Jésus même. C'est à lui qu'il faut aller pour s'enquérir de quoi que ce soit. C'est en son esprit qu'il faut aller. Marié ou pas marié. La femme ne te dérange même pas. Va en Jésus-Christ. Il t'instruira de ce que tu veux savoir. Par la puissance de son esprit. Lui-même, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Moi, je crois qu'il s'adressait à la femme particulièrement. Alors, que ça ne t'attriste pas ce qui est dit là. Et j'espère continuer à m'éclairer, à me dire. Et Marie-Madeleine, alors? Il ne lui était pas interdit d'être au milieu des hommes. Quand Paul nous explique à Corinthe que la femme doit se taire dans l'église et que c'est compris comme ça au jour d'aujourd'hui. Je me dis, mais quand notre Seigneur Jésus était là, il n'y avait pas les églises. Certes, mais les hommes n'étaient pas moins réunis. Parce que notre Seigneur Jésus se rassemblait continuellement, constamment, avec les apôtres, avec les 110, avec les 120, avec la foule, il y avait toujours du monde. Il ne me semble pas avoir lu dans les évangiles que Jésus ait quelque part dit qu'il fallait que la femme se taise de quoi que ce soit, qu'elle ne parle pas. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore lu. Si quelqu'un a lu quelque chose qui ressemblerait à ça, j'aimerais bien, moi, sincèrement, que cela me soit communiqué. Mais notre Seigneur Jésus aussi se rassemblait même en petit comité. Mais il nous apparaît dans la Bible que Marie-Madeleine était toujours présente. Bon, je n'ai pas souvenir qu'on l'ait chassée. Et je ne pense pas que quand elle était présente, elle était muette. Parce qu'il apparaît. Même du dire des apôtres. neutre même, qu'elle était très active. On ne peut pas être active en étant neutre. On ne peut pas être active en ne parlant pas. D'une façon ou d'une autre, je veux dire. Et c'est encore cette Marie-Madeleine qui a suivi tout le processus de la croix, du chemin de la croix, qui a été le plus proche du lieu même où Christ était crucifié, qui a vu le plus près toute la scène, qui a assisté lorsqu'on plantait des clous dans les mains du Seigneur, qui a vu sa détresse, qui a vu sa souffrance. Elle était là. Quand on regarde souvent des films qui parlent de la croix, de l'épreuve de la croix, la crucifixion, et qui parle de la vie de Jésus, on voit même qu'à certains moments, elle s'approchait tellement que les gardes, les centurions, la chassaient, bousculaient comme ça des pieds, et va-t'en. Elle se déplaçait une seconde. Après, quand ils étaient encore distraits, elle se rapprochait davantage pour être prêt, pour pouvoir aller témoigner après. Parce que les apôtres, eux qui étaient loin, cachés, Pierre avait déjà renié et y allait, tous étaient un peu dispersés comme ça, tassés dans leur tanière. Et ils n'ont pas vu de leurs yeux la souffrance du Christ. Mais Marie-Madeleine devait-elle se taire? Vous pensez que Marie-Madeleine, quand elle les a retrouvés, ne leur a pas raconté? Oh, ne comprenez pas ce verset de cette façon. Vous n'avez pas à vous taire, mes sœurs. Confiez-vous en l'Esprit, regardez en Jésus et parlez de ce que l'Esprit de Dieu met en vous. Vous avez des trésors en vous que vous devez relâcher. C'est encore Marie-Madeleine qui est au-delà de la Pâque, pendant que tout le monde était encore après ça, a eu le regard toujours, la pensée est restée à la croix et au sépulcre, là où elle avait aidé. Arimathée, Joseph d'Arimathée, pour ensevelir Jésus, elle était restée connectée pendant toute la Pâque, pendant que les autres partageaient la Pâque. Son esprit était resté au tombeau. Dès le matin, dès que ça a été possible, elle s'est levée pour aller au tombeau. Oui, et c'est encore à elle que Jésus a confié. Que Jésus a confié la grande mission d'aller réveiller les apôtres, d'aller avertir les apôtres, d'aller les alerter. Que ce qui devait se passer, s'est déjà passé. Alléluia. L'annonce de la bonne nouvelle. Oh, je me plais à dire parce que je me rends compte à quel point c'est vrai. L'annonce de la bonne nouvelle, de la résurrection de Christ, a été annoncée par une femme, la première. Doivent-elles se taire alors que c'est la mission principale de notre Seigneur? Il nous a dit, il a dit à tous, allez jusqu'aux extrémités du monde. Annoncer la bonne nouvelle. Faire des nations les disciples. Et la première qui a eu à annoncer cette bonne nouvelle, c'était Marie-Madeleine, une femme. Et elle a annoncé à qui? Pas au moindre. Elle a annoncé aux apôtres. Quand on prend la définition d'apôtre, qui signifie les envoyés? C'est à se demander si Marie-Madeleine n'est pas la première des envoyés. Elle a été envoyée par Christ pour aller envoyer les autres, pour aller leur communiquer que l'ordre de départ avait sonné, que le coup de pistolet du démarrage de la course avait retenti. Oh là là, gloire à Dieu. Femme, ne comprenez pas ce verset de cette façon, que ça vous limite. Vous n'avez pas à vous taire. Vous portez en vous une grâce infinie. Oui. J'aime à dire aussi, toujours dans cette pensée, parce que c'est les trois figures que l'esprit a fait monter dans mon cœur, c'est de Lydie. J'ai dit toujours, Lydie, cette femme, la Bible dit, par qui l'évangile a envahi l'Europe. Oh là là. Femme, sachez que c'est par vous. C'est par vous, partout où vous êtes. C'est par vous que l'évangile passe pour envahir. Vraiment, sachez-le. Que ce soit la Samaritaine pour la Samarie. Que ce soit Marie-Madeleine même. Pour tous ceux qui devraient œuvrer en Jésus-Christ. Que ce soit Lydie pour l'Europe. Et plein d'autres, certainement. Mes frères, mes sœurs. Sachez-le, vous êtes des passages. Vous êtes des passages. Oh Seigneur, merci. Je parlais de Lydie. Et je disais, Lydie, si Lydie c'était tu, Lydie était une femme d'activité, d'affaires. On dit qu'elle vendait des tentures, des tissus peints, des grands tissus nobles. C'était une grande commerçante. Et elle était établie sur ce qu'on appelle la route. La grande route commerçante qui partait de l'Orient et qui arrivait en Europe. Et c'est comme ça qu'elle a entendu, avant que Paul n'arrive dans la ville où elle était, que Paul ne décide de ne soit convaincu de l'esprit, par l'esprit de changer de direction et d'avancer vers l'Europe. Elle avait déjà entendu, parce que les gens qui étaient dans les commerces et qui partaient de l'Orient, traversaient toute cette zone de l'Orient au Moyen-Orient, etc., qui avaient déjà été évangélisés, arrivaient avec des brides de connaissance de Christ. Et ils arrivaient et témoignaient de ce qui s'était passé à Jérusalem. Ils témoignaient de ce Christ. Ils témoignaient de ce Messie qui était déjà arrivé et qui apportait la vie. Elle a donc connu un peu l'évangile comme ça. Et je dis toujours Lydie, parce que la parole nous dit que Lydie allait prier de l'autre côté de la rivière avec des femmes. Alléluia! Cela suppose que Lydie, avant que Paul n'arrive, était déjà une meneuse de troupe. Elle avait déjà un groupe de prière et de louange. Elle avait déjà rassemblé des gens. Je vais quand même dire que la Bible, c'est vrai, la Bible ne dit pas tout, mais si Lydie était mariée ou que son mari avait une quelconque importance, implication dans ce processus, il aurait été cité. Dieu n'est pas ingrat. Dieu est juste et équitable. Donc, s'il n'a pas été cité d'une quelconque façon que ce soit, ça veut dire que son implication n'est pas d'un grand intérêt dans ce processus qui a eu lieu. Donc Lydie, qu'elle eût été mariée ou pas, c'est pas ça le problème. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de ses activités, c'était déjà une servante et elle avait déjà rassemblé des gens. Et comme il ne priait pas dans la ville, parce que la ville n'était pas une ville qui avait cru, donc il devait en quelque sorte était combattu en quelque sorte, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire de façon officielle. Donc, et de façon officieuse, la parole dit qu'il y avait une maisonnée de l'autre côté de la ville. Quand Paul est arrivé et qu'il s'en enquêtait un peu pour avoir la connaissance un peu de la région, on lui a dit, oh, vous trouverez les femmes qui prient ce Jésus-là, vous les trouverez rassemblées là-bas de l'autre côté de la rivière, elles sont là-bas. Ah. Et là, Paul est parti et a trouvé une avant-garde. Est-ce que Paul, vous pensez qu'il est arrivé là-bas et qu'il a dit, Lydie, tais-toi. Maintenant, moi, je suis là, maintenant, c'est devenu une église, maintenant, tu ne parles plus. Parce que les femmes ne parlent pas dans les églises. Je ne pense pas. Je ne le pense pas. Dans ce verset-là, il ne faut pas le comprendre comme ça. Et j'ai dit à l'Esprit de Dieu, comment donc dois-je le comprendre? Voilà ce qu'il m'a dit, voilà l'éclairage qu'il m'a donné. Ce que j'ai entendu, c'est, es-tu une femme de Corinthe? J'ai dit, ah. Il a répété, es-tu une femme de Corinthe? Parce que Paul est en train de parler aux Corinthiens. Paul s'adresse à une église en particulier, à l'église de Corinthe. Es-tu une femme de Corinthe? Oh, non, moi je ne suis pas une femme de Corinthe. Alors, depuis le début du livre, un Corinthien, Paul est en train de reprendre une église par rapport à leur façon de faire, par rapport à leur action, par rapport à leur pensée, par rapport à leur désordre, etc. Donc, il est en train, sur chaque point, en train de les reprendre. Et ce que Paul dit là, à ce moment, c'est une reprise qu'il est en train de proférer aux femmes de l'église de Corinthe. L'Esprit me dit, es-tu une femme de Corinthe? Si tu n'es pas une femme de Corinthe, cette reprise ne te concerne pas. J'ai dit, waouh, effectivement. Parce que Paul ne peut pas en même temps dire une chose et puis une autre, d'un chapitre à un autre. Non. Dire une chose et ne pas le faire, non. Notre prédécesseur, l'apôtre, le serviteur de Dieu, Paul, est plein d'esprit de Dieu. Et fait des choses dans une cohérence induite par l'esprit de Dieu. Donc, effectivement, tel il s'adresse aux Corinthiens. D'une autre façon, il s'adresse aux Éphésiens. D'une autre façon encore, il s'adresse aux Galates. Et il parle à chacun selon ce que l'Esprit lui met à cœur pour cette église-là, pour ce groupe-là, pour cette assemblée-là, pour ces personnes-là. Alléluia. Es-tu une femme de Corinthe? Ma sœur, mes frères, ne sois pas une femme de Corinthe. Parce que si tu es une femme de Corinthe, oui, ne parle pas. Parce que les femmes de Corinthe, elles devaient congossailler même pendant le culte. Si elles sont tout le temps assises, au lieu d'écouter ce qu'on prêche au pupitre, elles sont seulement en train de demander au voisin, on a dit quoi, on a encore dit quoi, tu as vu la robe de celle-là, tu as vu les cheveux de celle-là. Oh, regarde ce qu'il a dit, voilà machin et tout ça. Et que ça fasse du chahut dans l'église pour la raison qu'elle se taise. Pour la raison qu'elle se taise dans ce cas. Mais ça ne veut dire pas que toi, tu dois te taire. Parce que l'Esprit me dit, es-tu une femme de Corinthe? Non, je ne suis pas une femme de Corinthe. Je suis une Samaritaine. Je suis une Lydie. Je suis une Marie-Madeleine. Oui, je suis de ces femmes qui ont reçu aussi l'Esprit de Dieu en elles et qui sont envoyées de Christ pour annoncer la bonne nouvelle, pour faire des nations des disciples. Je suis de celles-là. Je ne suis pas une femme de Corinthe. Alléluia. Ne sois pas une femme de Corinthe, ma sœur. Ne sois pas une femme de Corinthe. Sois une envoyée. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci mon Père. Oh, c'est toi qui dis, celui qui me cherche sincèrement, je me l'ai trouvé. à celui qui me cherche sincèrement, je me manifeste. Merci pour ta manifestation ce matin encore. Merci d'avoir rendu ma méditation, ô Seigneur, riche, productive, car j'ai produit du fruit. Oh, et aujourd'hui, Seigneur, tu mets en moi une conviction supplémentaire. Tu m'enrichis encore de ta liberté. Tu m'as franchi par la connaissance de la vérité de ta parole. Merci. 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 Sachez, mes sœurs, que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus au midi. Et ceux en qui l'Esprit de Dieu est établi pensent comme Christ et qu'ont compris qu'il faut donner à chacun dans son corps, dans le corps du Christ sa place. Et qu'une immense grâce a été déposée en la femme pour le corps de Christ. Et pour servir même à l'expression des hommes, serviteurs de Dieu. Alléluia. Les choses charnelles sont charnelles, mais avec Dieu, elles doivent être spirituelles. Lui-même, il le dit, des adorateurs en esprit et en vérité. Tout avec Dieu et en esprit et en vérité. Rien n'est physique, rien n'est charnel. Tout est esprit. Alors élevez-vous en esprit, mes sœurs. Ne vous considérez pas comme femme. Quand vous êtes dans le processus divin en Jésus-Christ, vous n'êtes pas des Isha. Non, vous n'êtes pas des créatures de sexe féminin. Non, vous êtes des esprits, vous êtes des fils. J'aime à dire, quelqu'un m'a entendu dire un jour, parce que je disais je suis fils. Je dis, mais ma soeur, comment tu peux dire que tu es fils? J'ai dit oui, je suis fils, parce que même dans la parole, quand Dieu définit ce qu'ils deviennent fils, il n'a pas dit ils vont devenir fils et filles. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ce n'est pas masculin et féminin. C'est une question d'engendrement. C'est une question d'enfantement. Je suis fils en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, nous sommes tous des fils en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en esprit en vérité. Il faut comprendre ces choses-là de cette façon. Et prendre conscience de sa position divine. En Jésus-Christ par rapport à notre Père le Créateur. Oui. Homme, femme, garçon, fille, tout cela, ce sont des variétés de corps. C'est le corps qui est différent. L'esprit est le même. Le corps est différent. Il y a des corps hommes et des corps femmes. C'est charnel. Et ce qui est en Dieu n'est point charnel. Oui, mes frères, mes sœurs, merci pour ce moment encore. Que puisse ce partage édifier certains. Que puisse ce partage, mes sœurs, fortifier certains dans leur parcours. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ton assistance, pour ton éclairage encore aujourd'hui. Merci de me remplir. Oh, en toute la place. Que toute ma volonté te soit soumise. Toi qui agis comme Père veut qu'on agisse. Merci, merci, merci. Merci de m'éclairer. Merci d'inscrire dans mon cœur la pensée de paix. Oh, merci, Saint-Esprit. Merci. Envahis-moi. Embrase-moi. Oh, conduis-moi tout instant. Ne t'éteins point. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ne t'attriste point. En toute chose, fais-moi connaître Oh, quand ça ne va pas, fais-le-moi sentir et ne permets jamais que je me détourne d'un iota de la voie que l'Éternel Dieu, mon Père, en Jésus-Christ, mon Sauveur, veut que je suive, parce que je veux suivre cette voie et je ne veux point m'en écarter. Saint-Esprit de Dieu, je ne le puis moi-même. Toi, envahis-moi, prends contrôle de tout et conduis-moi dans l'agréabilité de Père. Conduis-moi dans les desseins de Père. Que seul son agenda s'établisse dans ma vie. Oh, dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, mon ami. Merci à vous, mes frères, mes sœurs. Que la grâce de notre Seigneur, que ses faveurs soient sur vous pour cette saison. Oui, que sa main de protection soit sur vous. Que le ministère des anges s'opère dans votre vie, s'opère dans vos vies, la vie de vos familles. Soyez bénis, demeurez bénis en Jésus-Christ. À très bientôt. Shalom.